At first, we were worried about using purple bricks, but since we sold with them, I haven't been able to stop going on about them, have I, dear?
No, love.
I've been telling everyone. Family, friends, that confused guy at the supermarket.
Yeah, you haven't really shut up about that.
But seriously, did I tell you about our purple bricks estate agent, Michael?
I met him too. He was nice.
Oh, we could talk to him whenever. Anything we asked, he could do it.
That's enough now,
he
dear.
He was brilliant, always available to chat on the phone.
Enough,
I
Robert!
I could email him any time of the day or night.
Oh, purple bricks. You'll be totally sold.
Fixed fee payable on instruction or after 10 months. Viewing services cost extra. See website for more details.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Jamal.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'After. L'After est là comme tous les soirs de la semaine, vous le savez, du lundi au dimanche. La seule émission radio en France, en direct, 7 jours sur 7, avec casting du soir. Bonsoir, Jonathan McCarthy. Salut Jonathan.
Salut les gars.
Ludovic Obraniak, salut Ludo.
Salut à tous.
Le débrief Nice PSG, les 3 points de Jonathan et Ludo dans un instant. La victoire donc du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face à l'OGC Nice à Nice. Les dernières infos Ligue 1, on parlera de l'Olympique de Marseille, également la déclaration d'André Villas-Boas, nouvel ami de Jonathan McCarthy, qui a notamment évoqué l'objectif maintenu de Marseille, à savoir une place sur le podium. Est-ce surréaliste? Est-ce trop ambitieux? Ou est-ce simplement réaliste? L'actu en Espagne également avec Fred Hermel, le report du Classico, ses conséquences, et Ousmane Dembélé qui a fait la grève de l'entraînement aujourd'hui. Voilà, on va en parler parce que cet homme-là est militant apparemment. Il est sensible à la cause catalane. On sait avec Fred Hermel.
En fait, il a raté le réveil et ça tombait bien.
Ouh, ça l'a rangé.
Ça tombait bien.
On en parle dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, messieurs, les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Oh, Ludo, il réfléchit,
ah
il
ouais, oublié. Parce que je...
On a Jonathan qui a les petits yeux là.
C'est l'hiver, c'est les petits. On ne sait pas.
Vas-y.
Peu importe. Les 3 points, on y va.
Vas-y, c'est toi.
Eh bah, écoute, premier point, c'est premièrement un Paris Saint-Germain qui, même si le match n'est pas parfait, j'ai trouvé un PSG sérieux. Le deuxième point, c'est évidemment la prestation XXL de André Di Maria. Et troisième point, l'arbitre qui a totalement faussé la rencontre.
Ah, intéressant. Je pense qu'on est même avis là-dessus. Ludo.
Je vais aller dans le sens de Jonathan, mais aussi j'aimerais pointer les choix de Thomas Tuchel que je n'ai pas compris, alors qu'il avait l'occasion à l'heure de jeu d'enfoncer le clou, puisque que tu fasses rentrer Mbappé à la 65e ou à la 75e, ça change pas grand chose à la donne, je pense. Donc pas compris ce choix de Kurzawa, en tout cas on y reviendra. Bien évidemment André Di Maria qui est qu'on a dépeint comme irrégulier ces dernières années, mais qui depuis qu'il est au Paris Saint-Germain est quand même un joueur assez extraordinaire, et il le prouve encore ce soir. Et le rôle d'Icardi, je trouve qu'il est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui il y a quand même une certaine efficacité, puisqu'il est à l'origine du premier et il clôture le dernier, il clôture la soirée avec ce dernier but. Mais c'est vrai qu'on le voit pas énormément.
Et on aurait pu aussi parler de Troyes qui est de Laurent Batles qui gagne ce soir et qui se rapproche du podium.
Le 3 de Laurent Batles, ouais. Exactement, ancien coéquipier, je crois, de Ludo. Non, tu l'as pas connu à Bordeaux, Batles. Non, c'était avant toi.
Non,
clairement avant toi. Le classement, messieurs, le PSG leader conforte sa place de leader, 24 points, 5 points de plus que Nantes, qui jouera demain soir. Quant au Niçois, ça chute un peu au classement, avec un match en plus. Nice ne gagne plus, 9e, 13 points sur 30 possibles. Le bilan commence à être médiocre, ouais, pour les joueurs de Patrick Vieira. Dommage, hein, il y avait Jimmy Ratcliffe en tribune. Première pour le nouveau patron du propriétaire de l'UC Nice. Bon, rien d'infamant, hein. Tu perds 4-1 à 9 contre 11.
Pas la crise à Nice. C'est la première mi-temps niçoise.
Ouais.
Ça, c'était quand même d'un niveau cataclysmique.
Appelez-nous d'ailleurs, supporters parisiens et niçois au 32-16, le hashtag RMC Live, également vos commentaires qu'on lira à l'antenne. Jonathan.
Donc oui, la première mi-temps niçoise était quand même cataclysmique. Défensivement, les joueurs n'y étaient pas du tout. T'avais l'impression qu'il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Mais c'est, je pense surtout au fait d'un manque d'implication que j'ai trouvé inexplicable de la part des niçois sur la première mi-temps. Alors effectivement, en seconde période, j'ai du mal à savoir, et c'est là où ça va être intéressant de discuter avec Ludo, j'ai du mal à savoir si c'est Nice qui revient avec des meilleures intentions.
Ou
si c'est Paris qui tend le bâton pour se faire battre. Et ou si c'est un petit peu des deux. Mais quoi qu'il en soit, sur le scénario du match, ce qu'on doit dire, c'est qu'à un moment où William Cyprien, qui est quand même le joueur, à mon sens, le plus important de l'équipe niçoise, parce que c'est lui qui, au milieu de terrain, régule un petit peu tout, et Christopher Herrera, qui est leur meilleur défenseur, se font expulser, Nice est clairement en droit de se dire que alors, cet épisode fait basculer le match, parce qu'à ce moment-là, tu sentais plus le 2-2 que le 4-1.
Je vais le résumer, cet épisode. Les gars, on est en la minute exacte de la double expulsion, puisque Nice finit la rencontre à 9 contre 11 parisiens. Ça se passe sur 5 minutes, grosso modo.
70, 75e.
C'est ça, exactement. 75e. C'est simple. Contact entre Paredes et Willian Cyprien. Paredes fait clairement une faute grossière sur Paredes, sur Cyprien. Cyprien est énervé, s'en prend à l'arbitre également. Il conteste, mais a priori, moi, je vois pas de virulence dans le comportement de Cyprien.
Tout dépend de ce qu'il a dit.
Deuxième jaune,
j'ai la
raison.
J'ai l'impression qu'il est loin quand même pour que Monsieur Texier entende. Ouais, entende, il est quand même peut-être à 3 mètres avec l'atmosphère du stade et exactement, le bruit. Ouais. Ça me paraît difficile. Je crois qu'il sanctionne son geste où il jette son bras comme ça de dépit. Mais bien sûr,
ça n'est pas un jaune.
Mais bien sûr,
un deuxième jaune et un rouge derrière.
Si c'est ça, c'est un scandale parce que son expulsion entraîne celle de.
Du coup, alors elle derrière elle, voilà, il a déconné.
Et dans un moment.
Je raconte plusieurs de gros mots.
Il a dérivé Christophe Herrel parce que
dans un moment où Paris est pas bien.
Paris pas bien, où Nice revient à 2-1 et Nice pousse et Nice a des occasions.
Et tu sens que Nice peut revenir très très certainement.
Derrière Herrel, les gars, on en parle. L'arbitre ne voit pas, il profite que l'arbitre se retourne pour glisser une claque.
Pour la baffe, il la baffe juste.
Alors c'est une baffe. Franchement, les gars, on peut en débattre.
Non, mais c'est pas une gifle.
Non, mais c'est un mauvais geste et c'est rouge direct.
C'est rouge. Ça, c'est rouge par contre.
Pour toi, il y a pas de débat. C'est rouge direct.
Sur moi, je sais pas. Herrel, c'est rouge, mais normalement. S'il n'y a pas l'erreur sur Cyprien, Herrel, ça n'existe pas.
Herrel, c'est le fruit de l'erreur
d'arbitrage. Je me demande pourquoi il se sert de la VAR sur le deuxième et pas sur le premier, puisque.
Je pense que sur le premier, il a cru entendre une insulte. C'est pour ça ou c'est le. Je vois que ça, mais c'est inexplicable.
Il me paraît loin pour entendre quelque chose, mais.
L'arbitre,
en tout cas, ça déstabilise totalement l'équilibre du match.
L'arbitre a été médiocre de toute manière ce soir, mais.
Monsieur Le Texier.
Monsieur Le Texier, ce n'est pas la première fois qu'on a à redire sur la qualité de son arbitrage. C'est quelqu'un qui a du mal à tenir ses matchs, qui a tendance à un petit peu dégoupiller et faire dégoupiller les joueurs qu'il a sur le terrain. Il n'inspire pas une grande sérénité. Alors, le but, c'est pas de parler de est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, mais c'est l'impression générale qu'il donne, et je pense qu'on est loin
au moment où Nice se réveille en plus. C'est-à-dire que Paris leur a donné le premier soubresaut et puis lui derrière, on allait avoir un match avec de l'allant, de l'ambiance, une fin de match correcte avec peut-être Nice.
Il reste 20 minutes avec
Nice qui pousse et tout. Au final, t'as une fin de match hyper décevante parce que finalement déjà que c'était compliqué pour cette équipe de Nice, mais alors à deux joueurs en moins sur le terrain.
On va quand même évoquer ce PSG qui a vacillé quand même sur la deuxième période, qui a subi le jeu niçois.
À l'image du premier but, ouais. Dilettante de Diallo sur le côté, Marquinhos qui fait une entrée, alors c'est pas dans ses habitudes, mais qui fait une entrée dégueulasse.
Catastrophique.
Dégueulasse ce soir. Ouais. Kimpembe qui réagit pas trop non plus, donc tu vois, on peut pas.
Kimpembe qui est pas bon, clairement, faut dire.
Non.
Et Kurzawa qui est entré en jeu. Miracle, ouais. Le miracle permanent.
Et il a pas fait le miracle permanent, se poursuit au PSG. Et juste un dernier mot sur l'arbitre.
Dis-moi, il y avait Vivien qui nous a appelé au 32-16.
C'est un arbitre qui est très jeune. Il a à peine 30 ans. Et je pense que on s'est peut-être un petit peu trop pressé pour le mettre en Ligue 1 parce que de tête, c'est lui qui arbitre aussi le PSG Nantes de l'année dernière qui a fait grandement polémique. Il y a eu pas mal de problèmes avec Lyon, avec l'OM. Donc je me demande si c'est une bonne chose pour lui que de le mettre sur des affiches qui sont en prime time comme ce match-là.
Voilà pour la victoire du PSG. On poursuit, on enchaîne avec les supporters. Supporter niçois, Vivien, qui nous a appelé au 32-16. Salut Vivien.
Salut à tous.
Et qui sort,
salut,
et qui sort du stade. Merci.
Ça va, les gars, au plaisir d'être avec vous. C'est la première fois pour
plaisir
moi.
Plaisir partagé. Ah super, t'as l'air serein. La voix ne tremble pas.
Voilà, écoutez, je suis supporter de l'OGC Nice. Moi, je sors juste du stade à l'instant.
Bon, dis-nous ton sentiment.
Première mi-temps assez compliqué pour nous, avec le petit Malangsar qui a pris l'eau, encore pour le côté gauche. Hein, un mauvais
c'est pas son poste.
Mais quand est-ce qu'il va comprendre qu'il est pas arrière-gauche, Malangsar? Colli était sur le banc ou pas?
Viera, oui.
Et pourquoi il met pas Colli
en plus Colli.
Mais non, mais reçoit Colli sur le banc.
Vas-y Vivien. De donner confiance petit à petit à Malangsar sur ce côté gauche, mais bon, lui a du mal à prendre ses marques Et dès qu'il y a de l'opposition en face, ça prend très vite l'eau. Le premier quart d'heure de jeu, on l'a vu.
Il a pas l'air du tout d'être fait pour ce poste-là.
C'est pas son poste, c'est un défenseur central, point barre.
Dans une défense à 3, ça, voilà, c'est très bien. Dis-moi, Vivien, c'est quoi ton sentiment ce soir après cette défaite 4-1, même si le 4-1 est anecdotique, hein, tout ça est dû aussi à la
Le score anecdotique, au final. Après la première mi-temps, on aurait dit, bon, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais au final, on revient dans le match. On a un but, il reste 20 minutes, le stade pousse, l'équipe commence à se reprendre. Et là, il y a le Texi qui nous flingue le match en sortant le deuxième jeune à Cyprien, quoi. C'est, voilà. On peut dire que c'est scandaleux, hein, mais on se demande encore tous pourquoi il a pris un deuxième jeune, surtout que c'est lui qui subit la faute.
Mais
le Parisien au milieu de terrain est en retard, il lui met la semelle. Il a le droit de râler. Si on peut plus en plus rien dire sur un terrain de football, c'est terminé, quoi. On arrête tout.
Le truc, comme disait Ludo, Vivien, on n'a pas encore
c'est dommage,
je sais pas ce qu'il a dit. J'aimerais juste savoir ce qui a été dit. Si une insulte est partie, bon. Ça ressemble pas trop à Cyprien dans l'absolu, qui a déjà été expulsé l'an dernier contre le PSG, déjà pour un Nice-PSG.
Rappelle, ouais.
Et tu vois, sur les images, on le voit parler Cyprien, donc je sais pas ce qu'il a dit. Donc il faut quand même être voilà, dans le doute, il faut quand même mettre un bémol, tu vois, parce que
j'ai même pas l'impression qu'il parle. En tout cas, Ludo, si c'est une insulte, c'est rouge direct.
Oui.
Et là, c'est un deuxième jaune. Ouais. Donc peut-être que Monsieur Le Texier pointe du doigt un comportement virulent ou une colère excessive.
Ludo, t'as dit quelque chose d'important, c'est qu'il a l'air loin de l'arbitre. Ça me semble difficile qu'il ait pu entendre quelque chose.
Peut-être qu'il a pété
à cette distance-là, avec l'ambiance du stade, ça me paraît vraiment. Bon, Vivien, dis-moi, ton Nice là, qui était hyper séduisant en début de saison, bizarrement, paradoxalement séduisant sans les recrues en plus. Bon là, il y a pas
Atal et Ounas. Saison là, ça commence à patiner un petit peu. Bon après ils sont jeunes, donc on va leur laisser. Il faut que la mayonnaise prenne. Après, d'un autre côté, il faut que Patrick Vieira mette les joueurs à leur poste sur le terrain. Déjà, ce sera un bon début. Parce que certains, c'est compliqué. Ils ne jouent pas à leur poste. Ils désonnent énormément. Et au final, on leur demande de jouer un rôle qui n'est pas le leur dans ce 11. Donc, c'est compliqué un petit peu pour tout le monde. Après, le retour des cadres Dante en défense centrale, ça va faire du bien. Et Rell aussi.
Bah, on va voir combien de matchs il prend, Rell.
Dolberg en veut. C'est un très bon finisseur. Mais il va falloir l'approvisionner en ballon, surtout. Et c'est là aussi où le bas blesse un petit peu, c'est dans l'animation offensive, hein. Dans les 30 derniers mètres, ça pêche énormément depuis 4-5 matchs maintenant.
À l'image de Dolberg, hein, qui a du mal.
Moi je l'ai trouvé, mais.
Non, il a pas de ballon.
Il est très bon dans tout ce qui est pivot, déviation. Le problème, c'est qu'il y a pas. Si t'avais eu Saint-Maximin avec lui, avec les déviations qu'il fait, ça aurait été du caviar.
C'est Maximin, lâche la balle.
Non, mais ça aurait été du caviar, mais si tu veux, il a. Dolberg, tu sens qu'il manque cruellement l'absence d'Ounas,
il fait ressentir.
Il y a personne, c'est-à-dire que tu as trouvé ton numéro 9 qui est bon dans le jeu de haut but, qui est bon dans la surface, mais qui n'est pas un joueur non plus qui arrive à faire des différences en un contre un. Et tu as le passeur qui allait bien avec lui, qui se blesse au plus mauvais des moments. Donc l'équipe de Nice doit se reconstruire, ils doivent surtout trouver des créateurs pour pouvoir mettre en situation quelqu'un comme Dolberg.
Le problème de Nice, et je me suis pas mal penché là-dessus depuis que.
Merci Vivien d'avoir appelé 32-16.
Un auditeur nous avait appelé pour critiquer en disant que Patrick Vieira était fortement critiqué du côté de Nice de par ses choix. Et en fait, ce qui apparaît, je trouve, c'est que cette équipe, elle manque un petit peu d'équilibre, surtout au milieu de terrain. C'est bien de mettre trois joueurs hyper créatifs comme Lesmelou, Cyprien et ce soir Danilo, mais je trouve que du coup tu te prives un petit peu d'avoir une vraie assise défensive et d'avoir des joueurs qui peuvent plus se lâcher devant. Cyprien, moi j'aimerais bien qu'il puisse jouer un cran plus haut, tu vois, parce que c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe, qui a une bonne vision du jeu, et là je trouve qu'il le gâche un petit peu en le mettant trop bas sur le terrain.
Figure-toi que je vois ce que tu veux dire. Le problème vient pas du milieu, le problème vient de derrière. C'est-à-dire qu'ils ont commencé Nice où ils ont été essayés, ils ont tenté quand même d'aller faire des pressings très hauts, sauf que derrière, ça a pas suivi. Ils ont laissé un espace immense entre Dante RL et Dolberg, qui était le premier à partir. Et au milieu, il y avait 50, 60 mètres à couvrir. Ils ont pris l'eau. Quand t'as un PSG comme ça, sur la première mi-temps, qui, sur une touche, le but de Di Maria, le deuxième but qui est fantastique, c'est un décalage rapide de Thiago Silva sur Meunier, sur l'aile, qui élimine trois joueurs. Meunier qui fait une passe en profondeur qui élimine trois joueurs, et l'espace entre les
le premier également, ils avaient quand même
les intentions, sauf que ta défense a joué beaucoup trop bas.
Ça manque d'équilibre, c'est que je pense qu'il faut un joueur pour protéger cette défense là au milieu de terrain, que ce soit Cyprien, Lesmelou ou ce soir Danilo. Il y en a aucun qui assure la sécurité quand l'équipe.
moyen ce soir.
Bah oui, mais c'est pas un joueur défensif de toute manière. En
plus. On finit sur Nice maintenant avant d'évoquer le PSG. On parle à Di Maria bien sûr et son doublé. Di Maria, superstar encore une fois. Stat hallucinante en ce début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.
Mais d'abord, saison, hein.
Gérard, 7 buts déjà. TCC, toute compétition confondue. Gérard, supporter niçois qui sort du stade également. Salut Gérard.
Salut l'équipe, salut tout le monde.
Salut Gérard. Merci d'appeler et bienvenue dans l'after, bien sûr. Bon, c'est quoi ton sentiment général? Tout à l'heure, on a eu Vivien, supporter niçois également, qui en veut à l'arbitre, à Monsieur Le Texier. Bah, qu'est-ce que t'en penses?
L'arbitrage, bon, on le connaît ce gars, il n'a pas le niveau pour moi.
Il est trop
jeune. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a vu deux équipes de Nice. Et l'équipe en première mi-temps, qui a regardé jouer, on avait l'impression que les Parisiens, ils étaient à l'entraînement. Il les regardait faire, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de niaque.
Pas d'agressivité.
Il n'y avait pas d'agressivité, il y avait trop de passifs. Il les regardait faire, vas-y, je te donne le ballon, vas-y, je te regarde. On a l'impression qu'il les regardait jouer. Et quand il y a eu le début de seconde mi-temps, on a senti qu'ils se sont un peu bougés un peu le
allez, dis-le, voilà.
C'est très bien, sympa, ouais.
Voilà, donc ils ont marqué ce but. On a tous pensé dans le stade, sincèrement, on a tous pensé qu'ils allaient revenir parce que l'ambiance allait remonter, parce qu'en première mi-temps, c'était froid, il n'y avait pas l'ambiance, hein, c'était mortel. On était tous assis, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en entraînement ou quoi? Et en deuxième mi-temps, après, je suis un peu loin, moi, de l'action. Je suis dans les tribunes assez haut, je ne vois pas ce qui s'est passé. J'ai vu le carton rouge sur Cyprien. Après, j'ai vu le Parisien qui s'est roulé par terre. On n'a pas vu ce qui s'est passé. On voit le deuxième rouge. C'est fini, il n'y a plus de match. Il a tué le match. Alors qu'on aurait pu voir 25 minutes.
Et t'as raison.
Les fins de match de folie.
T'as raison,
de
Gérard.
Folie parce que les Parisiens, ils ont commencé à se dire, oh, il faut qu'on se redresse un peu, qu'on se remette un peu à jouer au ballon. Parce qu'ils ont commencé un peu à avoir la FIFA, comme on dit.
Eh oui.
Eh ouais.
Mais là, exactement.
T'as totalement raison.
Mais là où ça a été totalement différent. La première mi-temps et la seconde, c'était le jour et la nuit.
Ouais.
Moi, je vois le match comme ça.
Hein. Ouais, tout le monde a cru que Nice allait pouvoir revenir dans le match. Messieurs, il faut marquer une pause. On revient dans un instant. Gérard, merci d'avoir appelé le 32-16. Je suis en retour depuis la plaine du Var. On revient chez toi à Nice. Pierre, supporter parisien au 32-16. Beaucoup d'appels spontanés. Bien sûr, on revient dans un instant. Ludovic Obraniak, Jonathan Macardy, la suite de l'after. On est ensemble jusqu'à minuit.
RMC.
L'after foot.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là comme tous les soirs, du lundi au dimanche. Et le week-end, c'est l'after de l'élégance. Deux vestes, une belle chemise d'automne, celle de Ludovic Obraniak. Oui, il arrive du grand froid, il arrive du grand nord aussi, c'est normal.
C'est le Nord.
La victoire du PSG, donc 4 buts à 1 sur le terrain de Nice à l'Alliance Riviera. Je vous rappelle les buteurs. Doublé de Di Maria, 15e, 21e. Réduction de l'écart, Ganago à la 67e. Double expulsion, Cyprien et RL en l'espace de 3 minutes. Nice finit à 9 contre 11 Parisiens. Mbappé, on va en parler dans un instant, qui entre en jeu et qui marque. Mbappé qui entre en jeu et qui passe pour Icardi à la 91e. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo?
Oui, en plus à 9, quand t'as deux joueurs en moins sur le terrain.
Avec les espaces cadeaux, qui étaient pour lui.
Pierre nous a appelé au 32-16, supporter parisien. Salut Pierre.
Salut copain, ça va?
Salut Pierre. Salut copain. Et bienvenue dans l'after.
Merci les gars. Ça va bien? Tranquille?
Ouais, tranquille. Bon, tu penses quoi de la prestation globale du PSG? On va parler de Di Maria dans un instant, qui a été phénoménal ce soir, enfin sur les 47 premières minutes.
Oui, il est phénoménal depuis ça fait un moment maintenant.
Pas que depuis le début de la saison, messieurs.
L'année dernière,
ça fait un long moment.
Est-ce qu'on peut dire que depuis que Tourelle est arrivé, il est très bon?
C'est le premier sur la feuille de match.
Ouais. Pour toi, c'est le premier nom que tu couches sur la feuille de match, toi, Pierre?
Ah bah carrément. De toute façon, il n'y a rien à discuter. Le mec, t'as vu que, enfin, tout ce qu'il entreprend, il le réussit déjà. C'est la première des choses. Et c'est un mec qui a vraiment, je pense, le maillot du PSG dans son cœur.
Pierre, tu te fais des films. Hein.
Il adore son club.
Pierre, tu te fais des films, je t'assure. C'est là-dessus.
Bah,
qui donne tout, qui soit hyper bon et parce exemplaire, il n'y a pas de souci.
C'est plus dans l'air du temps.
Mais je t'assure juste, il est au Paris Saint-Germain parce qu'il a un très bon salaire et parce que il faut qu'il amasse de l'argent en Europe.
Il a voulu rester
parce que je pense que le niveau de salaire qu'il a, faut s'en rappeler. Je pense qu'il aurait eu du mal à le rentrer dans un autre club. Mais son club de cœur, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est le club, petit club en Argentine.
Après, je pense qu'un mec qui s'identifierait pas au style de jeu, qui s'identifierait pas au
deux choses différentes, Pierre, dont on parle là.
Au move actuel, on pourrait dire ça d'un mec qui s'identifie pas au move actuel du PSG.
Tu nous dis deux choses différentes, Pierre. Tu nous parles de club de cœur et du fait qu'il soit bien à Paris. Oui, il est très bien à Paris et ça se voit sur le terrain.
J'ai le sentiment quand même qu'au travers de son comportement sur le terrain et du fait qu'il y a un truc, par exemple, je trouve qu'il va beaucoup plus au pressing qu'avant. c'est depuis le début de la saison, je trouve qu'il presse beaucoup plus qu'avant. Avant,
ouais, c'est vrai.
C'est beaucoup moins de Maria.
Non, mais il est très à l'aise, ça se voit, et il cherchait, en fait, ce garçon cherchait de la stabilité. Il cherchait à se poser, ça se voyait, après son échec à Manchester United. Je pense que ça a été très douloureux à vivre pour lui. Il cherchait un endroit où se poser, où être bien. Il l'a trouvé au Paris Saint-Germain.
Ouais.
Je crois, il a prolongé, ou du moins, ils lui ont proposé de prolonger. Il a prolongé. Pierre, si je dis pas.
Il a prolongé.
Ouais, il a prolongé, voilà. Donc, c'est lui qui en plus fait la démarche. Et puis, ses prestations sont clairement à la hauteur depuis maintenant. C'est depuis la moitié de la saison, de la saison dernière.
Ludo, Jonathan, c'est le quatrième du trio de stars au PSG.
Non.
Et c'est le.
Non,
les gars,
vrai,
justement, je fais exprès.
Parce que même moi, j'avais entendu Tuchel sur une chaîne concurrente.
Attends, Pierre.
Que depuis le début de l'année, il ne pouvait pas commencer un match sans mettre Di Maria tout de suite.
Tu as raison. Dès qu'il est arrivé, Tourelle, il a dit ne me parlez pas d'un trio.
Ouais.
N'oubliez pas Di Maria. C'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est l'expression. C'est le quatrième du trio. Parce qu'en fait, il est dans ce trio, ce mec-là. Et c'est un quatuor en réalité. Et ce gars-là, quand Neymar n'est pas là, Mbappé n'est pas là, il produit d'offensif.
Il lui a redonné de la.
Naturellement, c'est lui qui plante.
Il lui a redonné beaucoup de confiance. Et même quand, je sais pas si vous vous souvenez, quand Sarabia est arrivé, il a demandé à tirer les coups de pied arrêtés.
Oui.
Qu'est-ce que Touré lui a dit? Écoute, mon garçon. Il y a André.
À la main gauche.
Il y a André.
C'est Maria. En plus de ça, il y a un point. Attends, Pierre. Il y a un point qui est quand même intéressant par rapport à Di Maria aussi, dont on parle très peu. C'est que dans le vestiaire, il est devenu très important. Je sais que.
Il est pas dans le club des sages, hein.
Non, mais par exemple, avec les arrivées de Sarabia et d'Herrera, il les a pas mal aidés à s'intégrer, à connaître la ville, etc. Il a un rôle dans le vestiaire qui est bien plus important que ce que l'on peut penser.
Sixième saison. Vas-y, Pierre.
Ça fait quand même une équation assez positive pour un joueur qui a pas forcément le club dans son cœur, je trouve.
C'est Doria et Pierre, tu nous as dit c'est son club de cœur. Ça, c'est faux.
Bah,
ça,
il a jamais passé autant de temps dans un club qu'au PSG.
C'est à Rosario, c'est pas.
C'est à Rosario, mais non, tu as un club de cœur européen.
Bon, on
un
peut
club
parler de
cœur.
Tuchel maintenant.
Allez, parlons-en.
Les gars, juste Di Maria, c'est 13 matchs cette saison.
On peut avoir qu'un seul club de cœur. Non, mais tu peux pas dire ça dans l'after. On peut avoir qu'un seul club de cœur. C'est pas possible de dire ça. C'est pareil.
Il laisse pas parler les auditeurs.
Non, il y a qu'un seul club. On a un seul club de cœur. Il y en a deux, trois cas. Il y en a un seul club de cœur.
On peut aimer deux femmes. On peut. C'est possible.
Ses propos n'engagent que toi.
Ah non, mais je dis pas que c'est mon cas. Certains l'ont vécu dans l'histoire de la littérature. Ça existe. Di Maria, 13 matchs avec Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions, 7 buts, 2 passes décisives pour lui. Stats pour l'instant à la hauteur de ce qu'il a fait l'an dernier d'ailleurs. Pierre, dis-moi ce que tu veux dire sur Tourelle. Après, on va écouter Mathias également, supporter parisien qui nous appelle au 32-16.
Bah en fait moi je vais pas me plaindre, on a gagné 4-1, je suis pas non plus, voilà. Et en plus de ça, Mbappé, même si on était à 11 contre 9, il a mis un but et fait une passe décisive, et Icardi a encore marqué, donc j'ai pas forcément trop à me plaindre. Par contre, il y a une chose que je voudrais vous, c'est, j'en ai un peu marre que mon coach il joue à l'apprenti sorcier. Et à un moment donné, c'est-à-dire que Kurzawa, normalement, lui, il vient à l'entraînement deux fois par semaine, et le reste du temps, il jongle à Disneyland, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'il arrête de faire rentrer des joueurs comme ça pour nous mettre son truc à trois derrière qui marche pas. Ben voilà, c'est pas la première fois qu'il l'essaye. Et voilà, et à un moment donné, stop. Ça marche son truc à trois quand il a Neymar et Mbappé devant qui mettent des coups de boutoir sur la défense comme des dingues. Mais franchement, sinon, avec les autres joueurs, ça marche pas. Pourquoi il reste pas dans la logique de sa tactique de première mi-temps et qu'il reste pas comme ça jusqu'à la fin du match? Parce que dans ce cas-là, c'est vrai que moi j'ai eu l'impression en première mi-temps que tout le monde se battait pour tout le monde, que voilà. Et à partir du moment où il a apporté sa patte et qu'il a fait rentrer Kurzawa, c'était déjà plus pareil. Enfin, c'est mon avis.
Kurzawa, le miracle permanent se poursuit au Paris Saint-Germain.
C'est
4 ans qu'il doit partir, 4 ans qu'il est là, et il joue comme jamais.
Difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il fait des choix très bons et à la fois, des fois, très surprenants. Pour moi, le fait de relancer Paredes est un très bon choix. Le fait de le remettre dans le bain, ça fait déjà plusieurs fois qu'il le met dans ce rôle de sentinelle. Je le trouve bon, Paredes. Je le trouve bon, il est en réelle progression, c'est à noter. Cette rentrée de Kurzawa, repasser à 5, alors que pendant une heure, tu as maîtrisé avec ce 4-2-3-1, mais pourquoi? Pourquoi faire ça?
Mais t'as des équilibres.
Alors que tu peux tuer le match, t'as l'occasion de tuer le match.
Et
tu le sais qu'à un moment donné, ces mecs-là, tu le sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va y avoir un moment où
il était à 2-0 et je pense qu'il a dû voir Nice tellement apathique qu'il se doutait pas qu'il pouvait revenir et il a voulu faire une expérimentation. Le problème avec Tourelle, et là Pierre tu l'as très bien dit, c'est que parfois chercher l'originalité pour l'originalité, alors que t'as des choses qui fonctionnent, t'as des certitudes, ça ne sert à rien. Il y a des joueurs qui ne doivent plus jouer, on l'a tous dit, Kurzawa au Paris Saint-Germain, c'est quand même très bizarre. Même bon, que Choupo-Moting commence le match, pourquoi pas, parce que t'as beaucoup de blessés, mais même, c'est quand même un petit peu chagrinant. Mais
Pierre,
juste, moi, ce qui me chagrine, c'est que, à la rigueur, qu'il fasse des expérimentations une fois, et ça marche pas, t'as tenté, voilà, t'as voulu mettre, et le problème, c'est qu'il le fait plusieurs fois, comme tu nous disais tout à l'heure, Pierre. La défense à trois, on l'a vu que ça marchait pas, ne le refais pas.
Mais Paredes, pour revenir sur lui deux secondes, Paredes, le problème, c'est que c'est pareil. Paredes, il est dans un confort quand ça joue quand ça joue à trois au milieu, parce qu'il sait qu'il faut pas trop qu'il fasse les efforts défensifs. Et en plus, ce soir, moi, ce que j'ai vu quand même, parce que j'adore ce joueur, et j'aimerais bien lui tirer mon coup de chapeau, c'est qu'Ander Herrera, franchement, il a un niveau de dingue, ce type-là.
Ouais, il a été très bien. Ouais. Il est très simple.
Paredes Herrera, ouais.
Et Herrera, je pense qu'il sera bon avec n'importe quel autre milieu du PSG, que ce soit Verratti ou Gay.
Non, mais c'est rassurant de se dire que à la doublette Verratti-Gay, il peut y avoir une autre doublette qui peut performer aussi dans ce genre de match.
Bien sûr,
quand t'as besoin de faire reposer les deux autres.
En plus, Paredes, ça offre un profil qui est quand même que le PSG n'a pas vraiment, même si maintenant ils ont Herrera, c'est qu'il peut jouer tout seul devant la défense. Avec l'équipe d'Argentine, il est très bon, c'est le joueur le plus sûr de l'équipe d'Argentine et joue devant la défense.
Il commence à ratisser des ballons en plus de ça.
Mais en Argentine, c'est ce qu'il fait.
Il a cette capacité à casser des lignes avec sa qualité de passe, mais en plus, il ratisse.
Mais tu sais, sa qualité première à Paredes, à la base, avant qu'il arrive en Europe, c'était que c'était un vrai milieu récupérateur. C'est le mec devant la défense qui gratte tous les ballons, qui a une très belle relance, certes, mais qui est vraiment solide.
Merci Pierre d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, Mathias sera avec nous. Éloge sur le Direct Studio, l'application RMC Sport. Di Maria magistral ce soir, c'est clair. Son deuxième but, messieurs, on n'a pas parlé.
Mais dans l'angle, il est dingue.
La merveille. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'en plus, l'angle n'est pas fermé, on va être honnête quand même.
Non, mais
Mais il le fait extérieur du pied. Et t'as vu le rebond du ballon, t'as l'impression qu'il a fouetté.
Benitez qui lui donne l'information. C'est-à-dire que si Benitez ne fait pas ce petit pas en avant, jamais il peut faire ça. Mais techniquement, c'est magistralement effectué, c'est de la soie, quoi.
C'est soyeux. Il caresse le ballon.
La caresse du ballon, le timing, le dosage, c'est de l'orfèvrerie.
C'est la classe. Mais ce mec-là, un but sur trois, c'est un but magnifique, Di Maria. C'est grand spectacle.
Non,
il est pourri, mais il est aimé, pour l'instant. Ouais. Mais il est là.
C'est son troisième but. Il n'est pas encore à son niveau, parce que je pense qu'il peut faire quand même beaucoup
et mieux. Et dans les choix qui sont faits, est-ce que au mieux de faire rentrer Kurzawa, il aurait été Cavani, il peut pas avoir 10 minutes, 20 minutes là pour
les gars, on n'est pas dans le vestiaire, on sait pas s'il estime encore un peu court même pour 10 minutes.
Non mais
est-ce qu'il le projette de le faire jouer à Bruges mardi, pas sûr aussi,
Nico, si tu prends Cavani sur le banc, c'est que tu imagines quand même le faire jouer un petit peu. Sinon quel est l'intérêt? Tu le laisses travailler avec le préparateur physique un match de plus plutôt que de te payer le déplacement à Nice où il va peut-être pas travailler. C'est mieux de le laisser bosser avec le préparateur physique. S'il est là, fais-le jouer 20 minutes.
Je pense qu'il l'a pris parce que c'était quand même censé être un gros match, on va mettre des gros guillemets, contre un adversaire qui était censé être sérieux et ne pas faire la première mi-temps catastrophique qu'ils ont fait. Et je pense qu'il a pris par sécurité si jamais le match avait mal tourné. Mais là, en voyant que voilà, je pense qu'il voulait le faire rentrer pour aller le dernier quart d'heure, quand tu vois que t'es à 11 contre 9, que tu gagnes, autant de temps prendre de risque. La saison va être longue, tu joues sur tous les tableaux.
Ce qui est important, c'est quand même que ces choix ont fait que ça aurait pu tourner vinaigre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me suis quand même dit que Nice, si ça restait en l'état, avait une chance de revenir. J'aurais mis une pièce sur le fait qu'il revienne.
J'en étais sûr avant la double expulsion, je pensais que Nice allait égaliser.
Beaucoup de messages d'incompréhension des supporters parisiens. Pourquoi Tourelle fait entrer régulièrement Kurzawa, cinquième match cette saison en Ligue 1.
C'est une énigme.
Cinquième match sur 10 possible pour Kurzawa. C'est une énigme. Faudrait lui poser la question vraiment. Il ne va pas nous répondre franchement. Malheureusement, Thomas Tourelle en conférence de presse.
Pourquoi? Mais
passe pas avec toi. Kurzawa, je vois là sa fiche là. C'est un compatriote.
En plus.
Ah non.
Franco-polonais.
Mais non.
Bien sûr que si. Double nationalité. Franco-polonaise. C'est toi, Ludo. C'est ça.
Il est jamais venu jouer. Il est jamais venu jouer avec nous.
Parce qu'il a été appelé en équipe de France avant.
Ah oui, il fallait faire le choix.
C'est la Patrick.
On ne le reconnaît pas comme tel.
Si on est sérieux, quand même, il faut quand même se dire que ce soir, Bernat n'était pas là.
Oui.
Et que de toute manière, ils ont juste Kurzawa en alternative à Bernat. C'est ça aussi le problème. Et d'une manière générale, en fait, même si Meunier ce soir fait un très bon match, je trouve que les deux postes latéraux gauche et droite au PSG, à part Bernat, t'as aucune valeur sûre.
C'est vrai.
Et donc, du coup, tu te retrouves à devoir faire jouer parfois Kurzawa.
Meunier revient dans des standards qui sont quand même plus conformes à ce qu'il nous a proposé.
Meunier s'est réveillé cette saison.
Ouais. Non, pour moi, Meunier, ça passe en Ligue 1. Ça passe en Ligue 1.
Il n'a pas, sinon, il a pas, trop jeune.
Non, Meunier, ça passe en Ligue 1, mais il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Et surtout, si tu ne le mets pas dans une défense à 5, je le trouve beaucoup moins bon.
Mathias, supporter du PSG, est avec nous dans l'after. Salut Mathias.
Salut Nicolas, salut Ludo.
Bienvenue dans l'ascenseur de l'élégance. On t'écoute.
Évidemment.
Pas de grossièreté. Mais je suis
sûr que tu ne pas de grossièreté. J'ai l'habitude de passer à l'antenne, donc pas de souci.
Oui, c'est un bon Mathias.
Mathias, il est bon. Il parle un français impeccable. Vas-y, Mathias.
Non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, j'ai fait 2-3 points. Je vais aller très vite. C'est les 3 points avant le but de Ganago et les 3 points après le but de Ganago.
Avant le but
de Ganago, j'ai mis un gegenpressing qui est cher à Paul Breitner et qui avait été initié à Dortmund par Tourelle. Donc, qui a totalement asphyxié les Azuréens. En deuxième point, j'ai mis Di Maria Galacti, qui est dans une forme éblouissante en ce moment. Alors, je suis pas du tout d'accord avec Pierre en passant, parce que Di Maria est un mercenaire dans tous les clubs où il est passé en passant. Et donc, c'est plutôt Marquinhos qui est aujourd'hui le symbole du PSG.
Exactement. D'ailleurs, il est sur les affiches chez lui. Campagne d'abonnement, c'est lui.
On peut être mitigé sur Dantier. Enfin, on peut être entre deux sur Di Maria. On peut pas affirmer que c'est son club de cœur, Paris Agen. Mais quand même, on sent une certaine attache maintenant. On peut pas dire que là, t'as l'impression qu'il a trouvé un endroit où se poser et qu'il est heureux comme ça.
Et un très beau salaire aussi.
Après, le troisième point que j'avais mis, c'était collectivement Paris a un groupe et pas simplement 11 joueurs. C'est-à-dire que tout le monde est concerné et ce sera un facteur clé pour la Ligue des Champions. Et après, j'ai tout rié, effectivement, à partir de l'entrée de Kurzawa, donc qui est encore un mystère, vous l'avez dit. J'ai mis Paris inexistant, rompt le combat et l'avare gâche le match. Ça crée des tensions sur le terrain, il y a des expulsions. Paris respecte pas le jeu, clairement, en deuxième période. Je crois qu'ils ont un tir cadré sur cette deuxième avant les deux expulsions. Donc, clairement, ils doivent se faire punir à 2-2. Et Kimpembe et Marquinhos, que j'ai trouvé catastrophique en défense à partir de la carrière.
Il a fait l'entrée la plus dégueulasse de sa carrière.
Kimpembe, ça fait un moment que je n'ai pas eu faire un match, une série de matchs correcte.
Hein. Et pour aller dans son sens, j'ai trouvé que même à 9, Paris avait été un peu inquiété sur certaines
matchs. Deux sorties de balle, incroyable.
Ouais.
Mais j'ai trouvé, j'aimerais bien avoir vos avis aussi, que j'ai déjà connu ce sentiment en Ligue des Champions où. C'est extraordinaire, voire brillant à certains moments, pendant un certain moment dans le match. Et de temps en temps, de façon inexplicable, ils éteignent la lumière. Il y a des fautes de concentration terribles et de temps en temps qui nous coûtent le match. Et Kimpembe, on s'en souvient, c'est le symbole de la déroute face à Manchester United à la 92e.
Mais alors, je pense que là, quand même, par rapport au match de Manchester et aux autres déroutes que tu as connues en Ligue des Champions, je pense quand même que Tourelle déstabilise un petit peu son équipe en faisant des changements qui n'ont pas lieu d'être. Tout se passait tellement bien en premier temps.
C'est une situation permanente, alors qu'il faudrait plutôt chercher une continuité.
Exactement.
Avec des schémas de jeu et effectivement des circuits de possession qui permettraient vraiment à l'équipe de prendre confiance.
Exactement.
Et de mettre surtout les joueurs à leur poste, quoi. Et Kurzawa, je suis désolé, il a rien à faire, ne serait-ce que même au camp des loges.
C'est très intéressant le point que tu viens de citer. C'est un point qui ne va pas forcément à l'actif de Thomas Tuchel, parce que rappelez-vous, quand il est arrivé, justement, il avait instauré cette mentalité de allez, on gagne 3-0, mais on continue. Vous vous rappelez ces matchs PSG quand il est arrivé les 6 premiers mois, rouleau compresseur, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, ça n'arrêtait pas. C'était de la première à la 90e minute. Et c'est vrai que ça fait un moment. Dès que tu sens que Paris a l'assise sur le match, ça lâche.
Tu veux dire qu'il a été rattrapé par une forme de culture parisienne, un truc comme ça, appelé par une culture parisienne le boulot, on domine puis on s'endort.
T'as vu le but que tu prends?
Oui.
Diallo, premier contact, il y va pas, il laisse rebondir la balle, il se fait manger dans le duel. Centre, il est pas vraiment dangereux ce centre. Marquinhos. Qui au mieux de
il se trouve, il peut faire autre chose. Passe poitrine ratée.
Il est dos au jeu, il fait une poitrine, il voit pas vraiment ce qu'il y a dans son dos. Kimpembe qui est pas vraiment dans les starting blocks.
Kasper, tu vois pas.
Kimpembe, c'est dur, hein. Franchement, Kimpembe, ça fait un moment qu'il est pas bon. Faut dire la vérité.
Je trouve qu'il est pas responsable vraiment sur ce but-là. C'est vraiment.
Non, mais il inspire pas la sérénité.
Sur le match,
je trouve qu'il est pas au niveau depuis un moment.
Il revient doucement, je trouve.
Moi, je trouve qu'il y a une vraie cassure en fait entre Tourelle et son effectif depuis en fait le match retour de Ligue des Champions. Justement, on en parlait à l'instant face à Manchester
City. Ouais, c'est vrai.
Je sens une cassure un peu invisible, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire que tout allait bien, etc. mais je sens que il y a quelque chose qui a dû se passer, qui a pas trop filtré, et je trouve Tourelle hésitant sur ses changements.
T'as raison.
Alors qu'il était pas du tout.
Il a perdu dans son assurance, effectivement.
Alors que ça devrait être le contraire. Cette équipe, elle devrait savoir que dès qu'elle lâche un peu, elle est punie immédiatement.
Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que depuis le match contre Manchester, à part le match contre le Real Madrid et le match contre Angers, Paris n'a pas fait un seul bon match complet. Faut quand même resituer la chose. C'est un moment à Manchester, hein. C'était quand même en février ou mars, je sais plus.
C'était en mars.
Depuis mars, t'as le match de retour en Ligue des Champions où les joueurs, voilà, je pense que vous avez envie de un petit peu, allez, balayer les démons de la Ligue des Champions et ils font ce gros match contre le Real. T'as le match au Parc contre Angers où là, effectivement, t'es bon de la première à la dernière minute. Mais depuis, t'as eu aucun match où sur les 90 minutes, t'as un grand PSG.
On va dire que contre Lyon, ils ont été bons une bonne heure.
Un match complet, Ludo.
Une bonne heure, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à maintenir ce niveau d'exigence. Exactement. Alors qu'il avait réussi à l'instaurer au départ. Quoi.
Mais ouais, comme si un match, nous sommes cette élimination et tout cassé. Merci. C'est curieux comme phénomène.
Merci Mathias d'avoir appelé au 32-16.
Salut Mathias.
Merci beaucoup.
Excellente soirée à toi. Tiens, ce commentaire sur le Direct Studio, application RMC Sport. Kimpembe a fait comme Mandanda, il s'est remis à l'endroit. On va attendre un peu quand même. Jonathan, merci d'être plus objectif. Il est revenu à un bon niveau.
Non, Jonathan, c'est Diallo qui progresse pas. Kimpembe, je vois pas de progression. Mais Kimpembe, il revient tout doucement. J'ai trouvé son match plutôt. Je te dis, je pense que c'est Marquinhos qui le met vraiment dans l'embarras sur cette remise de la poitrine. Autrement, je trouve qu'il a tenu.
Kimpembe, c'est que oui, ça va un petit peu mieux depuis le début de la saison, mais. Moi, c'est un joueur, je trouve, qui nous a montré le potentiel d'être vraiment un joueur de très haut niveau Ligue des Champions. Et très franchement, il est loin d'être au niveau qui était le sien l'année dernière, avant le match contre Manchester.
Il est sur la bonne voie.
On verra.
Messieurs, on va dans un instant. La suite de l'after, on est ensemble jusqu'à minuit. Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak. Oui, on dit qu'on voit. On voit ma poitrine un peu trop.
Bah, faudrait peut-être passer un petit coup de tondeuse, ça.
Jamais, j'en suis fier, moi. Je suis pas un homme moderne, hein. Tu t'épiles, toi, non?
Parce que la moumoute,
c'est n'importe quoi. On revient dans un instant, bien sûr. Supporter Marseille, appelez-nous 32-16. Arrête, Ludo, t'en fais trop.
On fait des volants avec ça, non?
Appelez-nous 32-16. L'OM, l'Olympique de Marseille, bien sûr. Déclaration de Villas-Boas. Un petit peu étrange en conférence de presse aujourd'hui. On en parle dans un instant. Appelez-nous, les dernières infos Marseille avant le match dimanche face au club de Gilbert Bribois. Bien! Pas mal, hein? A tout de suite, l'after est là.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche, jusqu'à minuit. Jonathan McCarty, le casting avec Ludo Bragnac, bien sûr, l'équipe du vendredi, l'équipe du samedi également. Ils seront là demain soir, bien sûr, pour débriefer la suite de la 10e journée de Ligue 1. Victoire du PSG, 4-1. Di Maria, Mbappé, Icardi, Ganago pour l'OGC Nice. Déclaration à l'instant, énorme coup de gueule de Patrick Vieira, messieurs.
Tu m'étonnes.
Contre l'arbitrage, au micro de nos camarades de Canal+. L'arbitre a gâché nos 20 dernières minutes. Là-dessus, on est d'accord. Pas forcément l'arbitre qui a gâché, mais il y avait en tout cas une possibilité.
Sur les 20 minutes. L'arbitre a gâché les 20 dernières minutes niçoises, oui.
Son équipe.
Tout le monde n'est pas d'accord avec
son
toi.
Son équipe nous a gâché une heure avant, quand même, aussi.
Ça aussi, oui.
C'est incompréhensible, il parle de l'arbitre. Quand on regarde l'historique de cet arbitre avec Nice, ça devient pénible. J'aimerais qu'il vienne et nous explique. J'ai du mal à comprendre. Willan Cyprien n'a pas manqué de respect, ni insulté l'arbitre, hein. C'était monsieur Le Texier. C'est une certitude. J'ai du mal à comprendre son rouge. C'est rare, hein, que Vieira sorte de ses gonds. Bah, ce soir, il est en colère. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Ludo.
S'il n'y a pas eu insulte,
c'est 2-1 à 75e. Il y avait une possibilité.
Ça change le match.
Et puis, son patron qui était là, les gars, aussi. T'imagines ton patron, il vient de voir bosser, tu te craques complètement, là. C'est pas terrible.
Ouais. Après, Ludo a raison. J'aurais aimé qu'il nous explique sa première mi-temps aussi, quoi. Ça aurait été intéressant.
C'est vrai, t'as raison. Marseille. Cours de presse aujourd'hui, avant la réception du Racing Club de Strasbourg dimanche au Vélodrome, d'André Villas-Boas, hein, c'est classique. L'OM, je le rappelle, 8e de Ligue 1, après 9 journées. Est-ce que, après ces 9 journées, l'ambition podium qu'il avait déclarée en début de saison est toujours là dans son esprit? André Villas-Boas.
On reste à 3 points du podium. Évidemment, on a raté plusieurs opportunités. Ça, c'est toujours la responsabilité du coach. Mais ça n'augmente pas, on va diminuer la pression que je mets sur moi-même. L'objectif reste établi pour la saison. À la fin de la saison, je le rate, je suis le responsable. Et après, c'est à la direction de faire la décision si on continue ou non.
Il se met presque sur la sellette tout seul, là, André Villas-Boas. Bon, les gars, Marseille, je vous le disais, il a raison, hein. Ils sont 13 points, ils sont qu'à 3 points d'Angers, 3e pour l'instant, ouais, après 9 journées. Mais c'est pas tant comptable la question, Ludo et Jonathan.
Non mais
c'est sur le forme, ce que Marseille propose cette saison pour l'instant.
Je trouve ça assez couillu de prendre ses responsabilités, de dire voilà, j'ai annoncé ça au début en mon âme et conscience. J'ai pas changé mes objectifs, même en fonction de il doit le savoir, hein, que l'effectif est pas le meilleur effectif qui est connu l'OM.
Est-ce que c'est réaliste, Ludo? Est-ce que c'est réaliste?
Et ben, pour lui, peut-être. Peut-être pour lui, il pense qu'il faut faire troisième, il s'y tient et il met la responsabilité. Bon. C'est-à-dire que si je suis pas dans les trois, ça sera ma faute. Voilà. J'engage ma responsabilité, moi, en tant que coach.
C'est vrai que
je dois pouvoir, avec ce groupe, réussir. Il doit avoir aussi le mauvais départ de Lyon, il doit avoir le mauvais départ de Saint-Etienne. Monaco n'est pas là, donc il se dit bon. Et quand même, il y a peut-être une carte à jouer aussi. Et puis, il faut quand même... il a raison, il faut quand même garder une certaine ambition. Je ne crois pas que ça soit impossible non plus pour l'Olympique de Marseille, peut-être avec le retour... alors, je ne sais pas quand on reviendra à Thauvin, il reviendra au mois de janvier.
Février.
Bon, ça fait tard aussi quand même. Mais peut-être... Alors, ça dépendra aussi du... Alors, c'est mal barré apparemment, mais... Au mercato d'hiver, il faut qu'ils fassent un ou deux trucs quand même.
Mais en fait,
ils essayent de faire un ou deux trucs.
Dans cette conférence de presse, moi je l'ai regardé en entier, il y a trois choses. Déjà, la première information, ça c'est une bonne nouvelle, ils ont enfin trouvé un accord pour faire signer l'IAG professionnel. Mm-hmm. Et qu'il a été courtisé par d'autres clubs, ça, bien les sûr. Supporters marseillais sont très soulagés. Ouais. La deuxième information, c'est que Alvaro a très peu de chances de jouer contre Strasbourg, mais à 100%, c'est les mots de Villas-Boas, à 100% sera là contre le Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Aussi, ouais. La troisième information, donc, c'est qui confirme son ambition de jouer le podium jusqu'au bout. Il a raison sur la forme.
Jonathan, tu réclamais un Villas-Boas plus déterminé également, plus volontariste.
Mais en fait, c'est ce que je t'ai dit. Il a raison parce que quand tu regardes qu'il y a très peu d'écart entre les autres prétendants au podium, on sait que le Paris Saint-Germain va prendre une place. Je pense que Lille est bien parti aussi. Et après, ça va se jouer entre Lyon, Saint-Etienne, etc. Mais le problème, c'est que ce qu'il avait déclaré en début de saison,
attends, Nantes, hein.
J'insiste là-dessus, c'était avant la blessure de ton meilleur joueur. Meilleur joueur qui est Florian Thauvin. Là, tu es amputé d'un très bon joueur, de ton meilleur joueur qui est Florent Thauvin, et même s'il reprend, allez, on va dire être optimiste, mi-janvier, il va être en forme qu'à partir du mois de mars, ce qui sera tout à fait logique. Donc là déjà, tu pars avec une balle dans le pied. Est-ce que le fait de réaffirmer cette ambition que je trouve louable, à mon sens, ça serait pas, quand tu recoupes un petit peu de toutes ces déclarations, ça serait pas un moyen de mettre un petit peu de pression sur sa direction pour leur dire, hey, quand même, si vous voulez qu'on atteigne les objectifs, va quand même falloir un petit peu cracher au bassinet cet hiver. Parce que remettons chronologiquement toutes ces déclarations. Il a dit, là, il y a 15 jours, il me semble, il y aura pas de recrues au mercato d'hiver, il y a pas d'argent, c'est comme ça. C'est lui qui annonce ça. Et puis là, il remet une couche en disant, on veut jouer le podium. Moi, je pense que subtilement et très intelligemment, je lui ai un peu tapé dessus la semaine dernière, mais là, je loue sa communication. Je pense que subtilement, il met une pression légère sur son actionnaire et son président pour leur dire, on a quand même besoin d'avoir des joueurs supplémentaires cet hiver.
Voilà pour André Villas-Boas, supporter marseillais. Appelez-nous au 32-16. Effectivement.
De toute façon, tu seras vite fixé. Hein. Marseille.
Ah bah attends,
la série. Marseille-Lille, Marseille-Lyon.
Ouais, la série est terrible. Mais c'est bien qu'elle récupère Alvaro avant cette série.
Ouais. Non, mais les gars, c'est bizarre. Comme sortie aussi, on est mi-octobre, t'as 9 journées. Mais parce que tu es déjà que tu seras plus là.
Nico,
tu finis 4e de Ligue 1. C'est pas nécessaire.
Nico,
maintenir l'ambition, évidemment. S'il dit l'inverse, les gars, après 9 journées, je suis pas sûr qu'on puisse finir sur le podium.
Mais non, il peut pas
le dire. Non, il peut pas le dire, évidemment. Mais déjà de dire, j'assume mon responsabilité.
Mais là, 9 journées. Raison.
9 Nico. Matchs officiels en Ligue 1.
Et en fait, là, je voulais pas forcément rebondir là-dessus, mais t'as raison. Parce que ça, quand il dit, si j'atteins pas l'objectif, il se met quasiment sur la sellette.
Parce qu'il dit, c'est pas grave, j'irai ailleurs, j'irai à Porto peut-être.
Ça va exactement dans le sens de mon avis tranché de la semaine dernière, où je disais quand même que Villas-Boas, l'OM, on va bien être d'accord, il l'a pris parce que c'était sa seule offre, mais il en a pas grand chose à faire.
Je pense que c'est un garçon qui m'a l'air particulièrement intelligent, qui a
habile en com aussi, les deux joueurs.
Qui ne parle pas pour rien dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait depuis le début, derrière, il y a toujours un message. Le message, c'est qu'il voit que les concurrents de l'OM pour le podium sont dans la même difficulté,
c'est vrai,
voire pire que lui. Et donc, il se dit, attends, Alors peut-être qu'avec la conférence de la semaine dernière, il a peut-être eu des retours aussi par rapport au fait qu'il a évoqué Porto et tout. Donc moi je suis content qu'il arrive et ça dénote un peu des entraîneurs où ils disent bon on verra. Voilà, lui il arrive, il dit voilà, moi j'ai dit que je vais finir troisième, et si j'y arrive pas, ça sera merci.
Il a dit aussi plus que ce que ça, et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que son argument se tient. Il dit que le moment de vérité, ça va être en février, mars, avril. Il dit qu'il faut que l'équipe soit vraiment là présente en février, mars, avril, et que c'est là où tout va se jouer. Il a raison. Et de le tabler comme ça, moi, je pense vraiment que c'est une manière de mettre subtilement la pression pour avoir des recrues cet hiver.
Tiens, les infos. Groupe, retour de Camara et Strootman. Camara qui revient. Ça y est, sûrement au sein de la défense marseillaise. Enfin, sûrement titulaire au sein de la défense marseillaise. Payet et Sanson, suspendu. Payet, son dernier match.
Il était là, Camara, déjà.
Ah oui, il est revenu.
Il est revenu, déjà.
Avant la trêve.
Il était là. Et un très grand, pendant la trêve, un très grand Hiroki Sakai avec le Japon.
Ah, j'ai pas vu.
Très, très fort.
Très grand, c'est-à-dire que
il a marqué sur tout le monde. Il a été splendide, il a été décisif.
Il a marqué.
Il a été impliqué sur beaucoup de buts. Il a été fantastique. Fantastique.
Ça s'appelle le communautarisme.
Et tu sais quoi?
Continental.
Je suis pas du tout japonais.
Continental.
Et tu sais quoi?
Continental.
Je pense même que Neymar, sentant le retour en forme
le communautarisme.
Non mais Neymar, sentant le retour en forme de Sakai, s'est dit, je vais me blesser pour pas avoir à affronter ce diable d'Hiroki pour le PSG.
Tu vois, Ludo, il soutient pas Kurzawa alors qu'ils sont franco-polonais tous les deux.
Tu sais ce qui m'aurait fait marrer?
Il est objectif.
Tu sais ce qui m'aurait fait marrer, c'est que l'annonce de Rudy Garcia se soit fait un peu plus tard, genre un peu le week-end dans l'after qu'on puisse en parler, tu vois.
Pourquoi?
C'est pas ça. Jonathan et son ami.
Ah oui, mais moi j'ai eu la chance de faire le podcast Lyon et le podcast Marseille le jour de l'annonce de l'arrivée de Rudy Garcia. On lui a, je pense, ses oreilles ont un petit peu sifflé.
Beaucoup de commentaires, notamment sur la coiffure de Jonathan McCarthy. Vous pouvez admirer sur RMC Sport News.
Attends, je suis pas vraiment coiffé.
C'est quoi? Ni fait ni à faire.
Pas vraiment coiffé ce soir.
Comme ça. C'est clair.
On nous dit notamment, c'est quoi cette coiffure de Sangoku?
Mais je me suis pas coiffé.
T'es bien la coiffure de Sangoku, j'aimais bien quoi. Et il faudra dire à Jonathan McCarthy d'aller chez le coiffeur avant de venir dans l'after de l'élection. Évidemment. T'es pas coiffé le mec. Il faut voir qu'il n'est pas coiffé alors qu'il a bossé ça pendant une heure chez lui, sous les yeux de Marinette, qui pleurait en voyant son maître coiffé comme ça.
T'as bien vu quand je suis cet après-midi.
Bref, on s'égare, messieurs. Tiens, juste pour vous dire que Bruges.
Et parle pas de Marinette aussi. Comme
Club Bruges, adversaire du PSG mardi soir en Ligue des Champions, 20h45 à suivre sur RMC Sport 1, bien sûr, a gagné aujourd'hui face à Moucron. À Moucron, 1-0.
Tremblé parisien.
Bruges et creuse son avance en tête du championnat belge. 6 points d'avance, son dauphin, le Standard de Liège. Voilà, le but était marqué par Hans Van Aken.
Sacha Tavolieri nous disait que...
C'était bizarre le début de...
Pourquoi?
Sacha Tavolieri, vas-y.
Nous disait que c'était pas forcément gagné d'avance, ça sera pas forcément une promenade de santé pour le PSG face à Bruges. Il disait que c'était une bonne équipe qui était difficile à manœuvrer.
Messieurs, j'ai quelques infos à vous donner également, info groupe notamment, la pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Ryan Cherki, on en parle depuis un an et demi, celui qui avait débuté à 15 ans et 3 mois en Youth League, et est marqué pour la première fois dans le groupe lyonnais. Décision de Rudy Garcia, puisqu'on parle de Garcia. Mm-hmm. Habile. Communicant, le garçon. Il est malin, Rudy Garcia. Tu sais, le gamin que tout le monde
veut voir dans le vestiaire lyonnais quand il est arrivé?
Bah oui.
T'as vu les images?
Bah oui. Chaleur. Sympa. Oui. Malin, le garçon. Bon, ça part un peu gros, hein, c'est sûr. Hein. Il arrive, premier groupe. Il met le petit Cherki, là, le grand espoir du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Bon, c'est bien, hein, on a envie de voir. Hein. Bon, c'est un groupe de 19. Hein. Il est possible qu'ils soient en tribune.
Vous allez voir que ça va marcher. Tu vas voir ce qu'il va faire avec Lyon. Il va faire une très bonne saison. Après.
Garcia.
Toujours dans la confirmation.
Le problème, c'est la deuxième saison avec Rudy Garcia.
Sur ses débuts, il est toujours.
Le problème, c'est que, heureux. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'à Lyon, il pourra pas faire ses petits trucs au mercato. Donc ça, déjà, rassurez-vous, à Millionnet, il y aura pas des Grégory Sertis à 300 000 euros par mois qui seront signés. On se demande quel est l'agent Grégory Sertis d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui me fait rire, et ça, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que, imaginez un match de l'Olympique Lyonnais avec une erreur d'arbitrage. Imaginez la double lame, Rudy Garcia en conférence de presse et Jean-Michel Aulas après dans les couloirs. Magnifique, magnifique.
Voilà pour Lyon, qui demain ne pourra pas compter sur Léo Dubois et Memphis Depay absent. Bertrand Traoré et Jason Denayer incertains, ils seront finalement présents. Moussa Dembélé, il a annoncé Rudy Garcia titulaire. Titulaire demain pour le match
face à Dijon à 17h30. T'as ton meilleur attaquant qui est jamais sur le terrain, et à un moment donné, c'est qu'il y a un problème aussi.
Et par contre, il y a une chose qu'il faut dire par rapport à l'intégration au groupe de Ryan Cherki, c'est que quand même Rudy Garcia, s'il y a une qualité qu'on doit lui reconnaître, notamment à Marseille, c'est qu'il a consolider définitivement la place de Maxime Lopez comme étant un titulaire du groupe, et c'est lui qui lance en équipe première Bouba Camara. Il a quand même cette appétence pour lancer
le plus grand joueur de l'histoire de Marseille, Maxime Lopez, non? Non, il a déjà commencé, non?
Pourquoi cet acharnement sur un jeune joueur,
en plus,
plein
un
de
bon
potentiel
joueur.
Qui ne demande rien à personne?
C'est un bon joueur.
C'est un bon mec en plus.
Ça me fait penser à la configuration un peu avec Eden Hazard quand il est arrivé à Lille, qui était déjà en train de. Un peu comme ce garçon, tu sais, dans lequel on portait beaucoup d'espoir et qui il a pas hésité, grâce à moi d'ailleurs, à le lancer assez
réellement.
Bah oui, puisque c'est moi qui jouais sur les ailes avec Michel Bastos, on était les titulaires réguliers. Et j'ai pris un carton rouge en quart de finale de Coupe de France à Toulouse avec Monsieur Chaperon, où on s'est chauffé.
Comme par hasard, tiens.
On s'est chauffé, j'ai pris trois matchs.
Aussi, c'est un joueur.
J'ai pris trois matchs, il lance Eden, et à partir de là, Eden flambe. Et je ne reviens pas comme titulaire.
Tu as lancé malgré toi la carrière d'Eden Hazard.
Tu vois. Quelle influence, Ludo.
Quel talent, Ludo. Bravo. Bon,
même exprès de prendre un rouge pour lancer ça.
Il se serait lancé d'une manière ou d'une autre, mais bon. Quitte à te faire prendre la place, autant que ça soit par un des meilleurs joueurs.
Lille à Toulouse demain soir 20h. Quelques infos, messieurs, à 4 jours de la réception de Valence et également en Ligue des Champions. Benjamin André suspendu. Ton joueur favori.
Tuile.
Cédric, cheville absent. Renato Sanchez, lésion musculaire absent. Timothy Weah. Qui revient, il est en phase de réathlétisation, comme on dit. Voilà pour les équipes françaises dans les champions. Vous pourrez voir sur RMC Sport mardi, mercredi, dis-moi.
Renato Sanchez, c'est pas franchement une grande réussite pour l'instant.
On va attendre. T'as raison. On pourrait dire flop maintenant, mais on va attendre.
Bien sûr qu'on va attendre, mais pour l'instant, l'adaptation est difficile.
Adaptation difficile pour lui. On verra ça. Ligue des champions, je vous rappelle, mardi, mercredi, à suivre sur RMC Sport. Nous revenons dans un instant, bien sûr. J'ai d'autres infos à vous donner, notamment une stat qui vous a bien fait marrer.
Hein? Tisley, vas-y.
Tisley?
Ouais.
Savez-vous, messieurs, quel est le joueur le plus rapide cette saison Ligue 1, hein, qui a été flashé le plus rapidement?
Hiroki Sakai.
Non. Réponse dans un instant dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit.
Mais jamais. Attends, j'ai été beaucoup plus vite que.
Qu'est-ce que tu regardes là? Mais non, messieurs, fallait pas le mettre sous les yeux de Ludo. On a préparé une infographie avec Ludo Bragnac et sa vitesse de pointe en Ligue 1. Mais sérieusement, les gars, le suspense. L'after revient dans un instant. Appelez-nous au 32-16, bien sûr.
16 km/h.
Ludovico Bragnac, Jonathan McCarty.
Oh, même en vrai.
Frédéric Bell arrive. Dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Ludovic Obraniak.
Ça y est, le téléphone est posé. Il est là. On est ensemble jusqu'à minuit. Fred Hamel est là déjà. Salut Fred.
Hola chicos.
Reste avec salut nous, Fredo. Oui, plein de choses à dire évidemment sur la situation en Espagne. Politique, sociale également. Le classico repoussé. On a la date. On en parle avec toi dans un instant. Tiens messieurs, RMC vous fait gagner un cadeau de rêve. Votre rencontre VIP RMC. Vous pouvez partir à la rencontre des plus grands noms du football, aux côtés de Mohamed Bouafsi. Grand nom du journalisme également.
Ludo !
La maison !
Ah oui, mais non, mais je suis d'accord.
Excellent Momo, l'homme, le numéro 1 sur les
mais
infos.
Mais il va être content, Momo, de passer une journée.
Voilà, bah pourquoi pas. Si Momo est un homme généreux, tu sais. Vous l'avez vu, hein, il a rencontré Villas-Boas, il a rencontré Marco Verratti pour des longues interviews. D'autres interviews sont en préparation avec d'autres stars. Du foot français, vous aurez la chance d'accompagner Mohamed sur une journée pendant le tournage de l'émission Comme Jamais.
Ah oui, ça c'est cool.
Sur RMC Sport, hein, tu pourras rencontrer, poser tes questions également.
D'accord, je crois que c'était un dîner en tête à tête.
Non, non. Bah, c'est un sûrement en rêve, je pense. Tu sais, c'est possible, non? T'as jamais eu le droit à ça?
Pas avec Momo.
Avec Momo. Pour emporter votre rencontre VIP RMC, envoyez dès maintenant VIP au 732-16, VIP au 732-16 et rencontrez les invités prestigieux de l'émission Comme Jamais sur RMC Sport 1. Messieurs, tiens, rapidement, tiens, puisque j'ai teasé ça, qui est le joueur qui a été le flashé le plus rapidement, qui est allé le plus vite cette saison en Ligue ?
Hiroki Sakai.
Ijoanis.
Atal.
Kanago.
Forcément, tu l'as vu.
Ah non, ça,
sur l'écran.
Vu.
Youssef Attal. Youssef Attal, 36,6 km/h. Il devance Kelvin Amiens, TFC, Senou Koulibaly, Dijon et Lyle Foster de l'Est Monaco. Tous au-dessus de la barre des 36.
Amiens.
Ouais. Tous au-dessus de la barre des 36 km/h. Mbappé, pour rappel, saison dernière, pointe de vitesse, 37,8 km/h. En avril dernier. Kingsley Coman, lui, avait battu le record en Bundesliga, 35,7 km/h. Usain Bolt, vous savez, quand il bat son record du monde, 9,58, 2009. 100 mètres,
non. 40.
44 km/h, 72 pour lui, lors de son record du monde. Et Ludo, effectivement, on t'a trouvé dans les classements, dans les profondeurs du classement de la Ligue 1 historique sur les joueurs les plus rapides. Tu es 912e.
Salaud.
Avec une pointe de vitesse à Bordeaux, sur un Bordeaux-Camp à 16,4 km/h. Ah bon. Juste derrière Sami Traoré, 16,7 km/h.
Ah ouais, c'était connerie.
Fred, c'est quoi ta pointe de vitesse, toi ?
Oh, c'est pas rapide.
Ah, mais ça, on le sait. Mais je te demandais combien. Tu...
Je, ouais, de toute façon, j'en ai aucune idée. Ouais, moi, j'ai toujours été nul en sport. Hein.
Ah, mais la vraiment, vitesse, c'est autre chose.
Mais pareil, mais j'étais nul. Alors, j'ai fait un peu de ping-pong à l'adolescence, mais. Mais vous vous souvenez quand, je sais pas, vous êtes jeune, vous, mais moi, quand j'étais petit dans la cour d'école, on faisait chou-fleur, chou-fleur.
Bien sûr, ouais, oui, on le faisait, bien sûr.
Bah, on voulait jamais de moi.
Ah oui, dans tous les sports. Voilà,
puis, bah, non, mais c'est pourquoi, pourquoi j'ai un œil finalement extérieur très neuf et toujours vierge sur le foot parce que je suis de l'extérieur, tu vois, j'ai toujours été nul en sport.
Donc. Fred, ce martyr de la cour de récréation qui a pris sa revanche. Qui a pris sa revanche. Et qu'on accueille dans l'after. Fred, le classico, c'est une des infos du jour. Le Barça Real, initialement prévu ce samedi 26 octobre, donc la semaine prochaine, a été reporté à cause des violentes manifestations en Catalogne après la condamnation de plusieurs indépendantistes catalans en début de semaine. Le 26, une manif, grande manif est prévue à Barcelone encore une fois, jour du match. Du coup, report. A priori, Fred, logique. La date est trouvée. Et c'est pas la Ligue, hein, qui l'a calé, ce sont les deux clubs.
Voilà. Alors, pour expliquer tout rapidement, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, il est tout à fait logique que le match soit reporté. C'est pas la première fois. Hein. Vous vous souviendrez par exemple qu'en 2010, José Mourinho à la tête du Real avait pris 5-0. C'était un lundi soir, le 29 novembre, face au Barça de Guardiola. Le match était initialement prévu le dimanche, mais il y avait les élections catalanes.
Ah oui,
et la
c'est
police
vrai.
Avait estimé que il y avait pas, c'était compliqué d'assurer la sécurité d'élections et la sécurité d'un match à haut risque comme un Barça-Madrid. Et donc là, finalement, avec les violences qu'il y a liées à la décision du tribunal suprême de condamner année pour sédition alors, des leaders séparatistes catalans. La sédition, en gros, c'est la rébellion contre l'autorité de l'État. Donc c'est considéré comme quelque chose de très grave. Mais bon, il y a plein de violences, etc. Mais surtout, c'est pas pour les violences d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grosse manifestation dans une semaine et que voilà, c'est pas possible d'assurer la sécurité des deux grands événements. Ce qui paraît tout à fait logique. Sincèrement,
qu'on l'a vu également en France, hein, d'ailleurs.
Mais bien sûr, enfin, ça arrive récemment. Souvent et c'est normal. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut pas prendre de risques et c'est tout à fait logique. Simplement, il faut trouver une date. Et là, Javier Tebas, que j'aime bien par ailleurs parce que je trouve qu'il fait beaucoup de bien à la Liga, il a fait une bêtise.
Et du mal à la Liga, vas-y.
Ben, il a proposé que le match soit inversé, c'est-à-dire que le Barça Madrid devienne un Madrid Barça. Et il a dit au comité de compétition. Qui en plus a vraiment la décision normalement de ça, il lui a donné d'autant plus la décision, il a dit je demande au comité de compétition de la Fédération Espagnole d'inverser les matchs. Refus absolu du comité de compétition des deux clubs en disant mais il y a altération, on dit ça en français non, altéré, oui,
oui,
altération
de l'équité sportive.
De la justice sportive. Ouais. Parce qu'il y a un tirage au sort qui fait que le premier match, il est à Barcelone. Ben, c'est pas pareil si le premier match joue à Madrid.
Bien sûr.
Voilà, c'est les deux côtés
en fait. Il était prévu quand le match retour?
2 mars.
2 mars.
Alors Fred, pour être très clair, du coup, on a trouvé une date.
C'est pas fini. Attends, c'est pas fini parce que c'est toute une histoire pour expliquer le bordel que ça.
Vas-y.
Donc là, la Liga dit on va faire ça le 7. Parce que la Liga veut absolument que ça soit un samedi. Parce que le match était prévu à 13h pour le marché asiatique. Et c'est important pour le business et la vente des droits. Sauf qu'il y avait d'autres matchs prévus, donc il aurait fallu passer les matchs du 7 au 4 à mercredi. Enfin, les clubs ont dit non, le comité de compétition a dit non. Et les clubs, et le comité de compétition a dit, écoutez, on va reporter le match au club de se mettre d'accord. Et les deux se sont mis d'accord, mais en 30 secondes, sur le 18 décembre. Pourquoi ça les arrange? Parce que le 7, c'était impossible de jouer pour eux, parce que trois jours après, ils ont leur dernier match qualificatif.
En Ligue des Champions.
Ouais. Le Barça va jouer sur la pelouse de l'Inter et le Real va jouer à Bruges. Peut-être ça qualifie ce soir-là contre Bruges. Donc, enfin, je veux dire, c'est donc ils voulaient absolument pas qu'il y ait un.
Donc finalement, ça les arrange. Attends, t'es en train de me dire, ça les arrange ce report. Bah oui.
Non, ce qui les arrange, c'est pas le report qui les arrange. C'est le fait que ça se joue le 18 et pas le 4 ou le 7.
Mais c'est même mieux peut-être pour eux que ça soit reporté parce que là, on est à la veille d'une semaine de Ligue des Champions.
Non, c'est la semaine prochaine. C'était pas ce week-end, c'est le week-end
samedi
après.
Non,
si le match, il n'y avait aucun problème pour jouer le 26, c'était normal. Simplement que s'il y a un report, il ne voulait absolument pas le 4 ou le 7, parce que c'est totalement. Puis surtout, un match Barça-Real, il y a une telle débauche d'énergie qu'il y a toujours un petit contre-coup après.
C'est psychologique aussi.
Psychologique, bien sûr, animique, physique. Et trois jours après, tu vas te jouer ta qualif à l'Inter, et surtout pour le Real, qui a quand même pas quelqu'un point pour l'instant, à Bruges, qui peut être le rival pour la deuxième place derrière le PSG. Donc c'était pas possible. Donc ça les arrangeait tous les deux de jouer le 18. Le comité de compétition, lundi à 10h, va annoncer ça, sauf que Tebas, il a décidé d'aller devant la justice ordinaire pour dire non, parce que c'est pas bien, nanana, pour les droits télé, tout ça. Bref, normalement, ça devrait jouer le 18 décembre, mais en Espagne, on ne sait jamais.
Le match le plus suivi au monde, le ouais. Classico Real.
C'est même plus suivi qu'une finale de Ligue des Champions.
Bah, tu vois, comme quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Alors Fred, prolongement, je vais en parler avec toi, Ludo et Jonathan. Deux joueurs du Barça ont décidé de faire la grève de l'entraînement aujourd'hui en soutien au mouvement de grève des indépendantistes. Le très engagé catalan Gérard Piqué et un certain Ousmane Dembélé, visiblement sensible à la cause catalane. On le sait, hein. Il a un grand-père catalan.
Il parle catalan ou pas du coup?
Il n'était pas à l'entraînement cet après-midi. Voilà. Il se dit ah ben on peut faire la grève. Ça, Fred, je fais la grève.
Alors, il faut expliquer que Piqué et
Ousmane
Dembélé sont suspendus. Donc, oui, le Barça, en fait, comme il y a grève générale aujourd'hui, le Barça ne voulait pas avoir de problème d'avion, donc ils sont partis au Pays Basque hier. Et aujourd'hui, ils se sont entraînés dans les locaux, dans les installations d'Alavés, puisque jouent à Eibar, c'est pas très loin, demain à 13h. Alors que Piqué soutienne la grève,
bon, c'est normal.
Il est catalan, enfin normal.
On l'a vu pleurer. Piqué,
c'est cohérent. Voilà, c'est pas normal, mais c'est cohérent avec son discours. Et on sait que c'est un séparatiste, etc. Là, là, là. En tout cas, qu'il est proche de la cause très séparatiste catalane.
Ah, tu sais, on l'a vu pleurer hein, l'an dernier, Gérard Piqué, hein, quand il parlait de ses amis indépendantistes. Vas-y.
Ouais. Enfin, bref.
Si, bref. Ne nous égarons. Oui, t'as raison. Vas-y.
Mais Ousmane Dembélé, enfin, je veux dire, c'est.
Peut-être qu'il a pleuré.
Ou il s'est fait bourrer le mou par Piqué. Ou alors.
Non, mais c'est quoi l'histoire?
Ou alors, c'est quand même le mauvais élève. Il y a grève. On l'a tous fait. Des grèves quand j'étais jeune au lycée.
Ah bah, bien sûr.
J'ai fait des grèves.
C'est ça,
contre la loi de Vaquer pour pas aller au cours.
C'est exactement ça. T'es là, tu dis, oh, il y a moyen de faire. T'es pas du tout militant. Tu défends pas la cause.
Mais non.
T'as un pote leader qui dit, on fait la grève. Tu fais la grève, toi? Ouais, carrément.
On vient pas.
Ouais, carrément.
Mais Fred, attends, t'as posé des questions.
Mec, il est au Barça, quoi.
Est-ce que t'as pu un peu enquêter, même si sur le sujet, quoi? Quelle est sa justification?
Mais il n'a pas de justification, il a le droit. Okay. Il a le droit, enfin, il piquait le fait, donc il dit non. Alors, c'est pour ça.
Fred, il a dit qu'il soutenait la grève?
Mais non, il l'a pas dit, mais il a suivi. Mais non, il l'a pas dit, il va pas faire un communiqué non plus.
Alors attends, Fred,
pour l'autodétermination du peuple catalan.
L'hypothèse, c'est est-ce que c'est possible que tout simplement il a encore eu une panne de réveil ou quelque chose?
Non, parce qu'on l'a su la veille.
D'accord. Oh là là.
Fred, quel est son. Comment il est considéré là-bas par les. Justement. Par les Catalans. C'est quoi l'image qu'il renvoie?
D'un mauvais élève, quoi.
Un petit clown.
Un garçon.
Ouais, donc c'est.
Non, tout. Ouais, enfin, mais c'est un mec qui. On peut pas compter dessus.
Pour un mec qui fait un peu. Qui est un peu spécial, atypique et qui fait rigoler. Peut-être pas si mal joué comme coup, parce que s'il se met dans la mouvance, est-ce que les Catalans peuvent être sensibles à ça?
Peut-être qu'il a deux coups d'avance.
C'est un grand politicien d'Embélé.
Ben mais peut-être qu'il dit
c'est géopolitique.
Je vais essayer de me mettre les gens.
C'est un grand démagogue.
Je vais essayer de me mettre les gens dans la poche.
Mais malheureusement, je pense que.
T'es pas ça.
Je crois qu'il y avait la flemme, quoi. Pas envie.
J'essaye de trouver. J'essaye de trouver.
On fait la grève.
C'est quand même.
Je serais pas obligé d'être bloqué. Non, tu pourrais.
On parle quand même d'un joueur qui est assez Flemmard au point de n'avoir jamais sorti les poubelles chez lui à Dortmund et d'avoir rendu la maison une maison
en trois quarts d'heure. C'est un grand classique pour la corporation des footballeurs. Quand ils passent une saison ou deux dans un club, ils ont une maison de location que le club leur prête.
Ça a été prouvé,
et
ça.
En général, énormément d'histoires, les deux, comme ça. Ouais. Pas tous,
mais
hein.
Mais attends, pas une majorité. Tu vis dans une déchetterie,
mais
quoi.
Histoire de gars qui laissent. Enfin, ouais, c'est
vous,
arrivé.
Vous voulez un exemple? Et là, je sais directement parce que j'ai dormi dans cette maison-là.
Allez.
Celle à Naples.
De Pipita?
De Pipita Higuain, qui était récupéré par un ami à moi. Et Pipita Higuain n'a pas laissé la maison dans de très bonnes conditions.
Et pas que c'est Simonet qui vit maintenant.
Comment?
Non, je dis c'est Simonet qui vit maintenant.
Voilà, Simonet, parce que Simonet.
Et le voisin d'Higuain.
Il a une maison à Milan, il a mis une maison à Naples, une maison à. Ouais.
Bah, elle a une maison
à Rome, ça dépend des directs qu'il doit faire, quoi.
Messieurs, ouais. Voilà Fred. Demain, il y a un bon match aussi. Atletico qui joue.
C'est bien,
un
très
bon match. Contre Valence. Tiens, messieurs, bonne nouvelle. En tout cas, l'Italie est déterminée à stopper le racisme dans ses stades. Phénomène récurrent en Italie. Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a dit aujourd'hui on va éradiquer le phénomène. Nous voulons adapter la VAR à cette fin. Utiliser les moyens vidéo de la VAR pour arriver à filmer.
T'as besoin de la VAR pour choper les mecs dans les stades quand même.
Non, mais c'est pas la VAR.
Enfin, c'est les caméras de surveillance, tout simplement.
Mais bien sûr, exactement. En Espagne, ils le font depuis des années.
Oui.
Alors Tebas, moi j'ai critiqué Tebas tout à l'heure, mais là-dessus, en Espagne, bon, c'était pas non plus, il y a pas les mêmes problèmes qu'en Italie, mais avec sa décision de mettre, bon, bien sûr, il y a des caméras de sécurité, mais surtout il y a des mouchards, enfin il y a des types qui sont là, ou des hommes et des femmes qui sont dans les stades, qui observent, qui écoutent.
Voilà. C'est pas beau, donc, ça, par contre.
Mais si, justement,
c'est pas beau, faut le faire, évidemment, faut le faire. Tu rigoles ou quoi, pour lutter contre le racisme?
Mais non, contre le racisme.
Moi, je préfère les caméras de surveillance que de la délation.
Tu fais la délation.
Non, mais c'est pas de la délation. Attends. C'est, ils sont là pour entendre ce qui se dit. Et Tebas a créé le concept de dénigrement, d'atteinte à la dignité humaine. Donc, quand Messi s'est fait traiter d'atteinte mentale au Bernabéu, les mecs ont fait un rapport et le Real a pris une amende et a expulsé les 13 mecs qui ont chanté ça et qui ont été reconnus par les caméras de surveillance.
Il y a des cas où tu peux dénoncer. Je suis désolé, effectivement.
Ah oui,
messieurs, rapidement, qui a dit Atem Ben Arfa, c'était la personne avec qui je m'entendais le mieux au PSG. Je m'en fous un peu du footballeur. J'aimais beaucoup l'homme avec lui. Il n'y a pas de sujet tabou. Tu peux parler de tout. Il avait toujours sa petite explication et sa compagnie était toujours très agréable.
Verratti.
Allez, je m'y. Qui a dit ça?
Meunier.
Thomas Meunier. Il est bon. Comment tu sais?
Putain, non, mais ça me surprend pas de lui. Il y en a qu'un qui
décalé.
Il y en a qu'un qui peut dire ça.
Merci Fred. Excellente soirée.
Merci,
à toi.
Les amis.
Demain dans l'after. À demain.
Salut Fred.
La Ligue 1 demain.
À 22h. Beaucoup de beaux matchs demain, effectivement. Effectivement. Ouais. Ludo également sera là, mais dès 19h30 pour la Ligue.
J'ai hâte, les débuts d'Antoine Camboire, j'ai hâte.
Alors Antoine, appelle-nous demain, c'est un peu chaud avec l'after. On vous expliquera tout demain avec Jonathan. A tout de suite, à demain.
Ciao, ciao.
RMC, l'afterfoot.
At first, we were worried about using purple bricks, but since we sold with them, I haven't been able to stop going on about them, have I, dear?
No, love.
I've been telling everyone. Family, friends, that confused guy at the supermarket.
Yeah, you haven't really shut up about that.
But seriously, did I tell you about our purple bricks estate agent, Michael?
I met him too. He was nice.
We could talk to him whenever. Anything we asked, he could do it.
That's enough now,
he
dear.
He was brilliant, always available to chat on the phone.
Enough,
I
Robert!
I could email him any time of the day or night.
Purple bricks. You'll be totally sold.
Fixed fee payable on instruction or after 10 months. Viewing services cost extra. See website for more details.